Bonjour Paul Pasquali.
Bonjour.
Alors, votre livre s'intitule « Héritocratie, les grandes écoles et les mésaventures du mérite, 1870-2020 ». Héritocratie, alors d'abord c'est un mot à éclairer.
Oui, l'héritocratie, au sens où je l'entends, ça n'est rien d'autre qu'un ensemble de capacités d'action, de mobilisation et de résistance à travers lesquelles les filières d'élite défendent leurs intérêts voilà, au cours de l'histoire, promeuvent leur modèle, garantissent leur autonomie et notamment se mobilisent à l'occasion de débats, de controverses qui mettent en jeu leur existence ou leur modèle et dans lesquelles, en se mobilisant, elles essayent d'éviter ou de freiner des projets de réforme contraires à leurs intérêts.
Donc le mérite revient toujours aux héritiers.
Dans le système actuel, il revient d'abord aux héritiers, oui, dans le sens où pour pouvoir mériter, pour être méritant, il faut d'abord avoir hérité et même beaucoup hérité. Alors il s'agit d'héritage économique et d'héritage également culturel. Donc d'avoir des parents très diplômés qui connaissent déjà le système scolaire, qui ont un rapport à l'avenir. Aussi dégager des nécessités de la vie quotidienne. Tout ça, c'est très important pour être en mesure de reproduire effectivement la position sociale des parents. Alors pas à l'identique, mais en maintenant plus ou moins le rang qui était celui de la famille dans laquelle on est né ou on a grandi.
Les chiffres sont éloquents. Les deux tiers des étudiants des grandes écoles sont issus de catégories sociales très favorisées.
Alors oui, c'est une moyenne. Dans les plus grandes écoles, ce qu'on appelle les très grandes écoles, Polytechnique, HEC, ENA, etc., c'est encore plus. Hein. On est quand même carrément sur du 8 ou du 9 sur 10 qui vient des milieux très favorisés. Effectivement, les chiffres sont éloquents et ils soulignent un paradoxe. Voilà, c'est une méritocratie dans laquelle les héritiers se sentent comme des poissons dans l'eau et parfois plus méritants que les boursiers, là où souvent des enfants de milieu populaire ou des boursiers peuvent se sentir illégitimes malgré leur réussite scolaire, voilà, en se sentant pas à leur place, en se sentant du malaise, en tout cas en doutant de leur mérite et de ce que mériter peut signifier.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous dites que l'existence des grandes écoles n'est pas un accident de l'histoire.
L'existence des grandes écoles, la reproduction sociale surtout n'est pas un accident de l'histoire. Il faut faire l'histoire de la reproduction sociale, c'est ce à quoi je me suis consacré. Au lieu d'y voir une loi immuable, une espèce de loi physique contre laquelle on ne pourrait rien, je la fais rentrer dans l'histoire et je montre que c'est le résultat de lutte. C'est le résultat de lutte entre des groupes sociaux qui n'ont pas les mêmes intérêts et qui au cours de l'histoire se sont affrontés. Donc il y a eu aussi des critiques contre les grandes écoles, il y a eu des affrontements, des tentatives de réforme sous le Front populaire, au moment de la libération, dans mai 68, au début des années 80, quand les socialistes sont arrivés au pouvoir. Et à chaque fois, une grande capacité de résistance du côté des élites en place qui a freiné des réformes, qui a empêché en quelque sorte que la reproduction sociale s'atténue dans ses effets.
Là où votre livre est également enrichissant, c'est que vous balayez plus d'un siècle d'histoire. L'école de la Troisième République, gratuite, laïque et obligatoire, fonctionnait-elle mieux qu'aujourd'hui ?
C'était une école qui a émancipé beaucoup d'enfants, de paysans et d'ouvriers de leur milieu, mais qui était surtout très inégalitaire. On en sortait dès 11 ou 12 ans, là où les élites avaient accès au lycée, donc au baccalauréat et aux études supérieures. Donc il n'y avait qu'un pour cent d'une génération qui accédait à l'enseignement secondaire et du coup supérieur. Et donc on oublie aujourd'hui, on magnifie un peu le passé en oubliant donc que l'école primaire c'était l'école du peuple et qu'il y avait des grandes barrières difficilement franchissables entre cette école primaire et l'enseignement secondaire.
Oui, et puis vous dites hein, que les scolarités étaient très courtes. Hein. Vous rappelez, vous parlez du certificat d'études qui était, et encore, il fallait l'obtenir. Hein, c'était pas...
Oui, tout à fait. Tout le monde ne l'obtenait pas. Et puis, voilà, il y avait un système de bourse aussi qui permettait à certains élèves de l'enseignement primaire de continuer dans le primaire supérieur. À l'époque, l'essentiel des ascensions sociales, quand on parle de ce fameux ascenseur social, l'essentiel des ascensions sociales ne passait pas par les grandes écoles, ni l'enseignement supérieur, est passé par le primaire supérieur, parfois même par d'autres formes de réussite dont on parle peu, des réussites professionnelles sur le tas. Il y avait une élite ouvrière, etc. Et tout ça a peu à peu disparu des radars, puisque il y a une définition de plus en plus élitiste du mérite qui s'est imposée au fur et à mesure et qui a totalement effacé un certain nombre de conquêtes ou en tout cas d'espoir pour démocratiser l'enseignement supérieur et permettre l'émergence d'une élite véritablement démocratique.
Oui, d'ailleurs, vous faites un beau portrait de Jean Guéhenno, né en 1890, qui était boursier, et c'est son histoire est belle et parle très bien. Je sais qu'à un moment donné, il dit voilà, ceux qui sont bien nés, ils savent tout sans avoir rien appris.
Tout à fait. Ça fait partie, dans le livre, je raconte l'histoire de plusieurs boursiers comme ça, Jean Guéhenno, Edmond Gobelot, Jean Jaurès et d'autres, le philosophe Alain aussi, qui en fait permettent non seulement de raconter une autre histoire de cette méritocratie française, une histoire un peu plus complexe, un peu plus critique que celle dont parlent les récits édifiants depuis quelques années, mais de montrer qu'il y a eu chez ces boursiers qui ont passé les frontières sociales, qui ont réussi scolairement et professionnellement, un recul critique, un esprit critique sur le système qui les avait promus et qui n'avait pas oublié d'où ils venaient. Et je trouvais que c'était important de le rappeler aussi pour montrer le côté sombre aussi de la méritocratie, c'est-à-dire que la promotion de quelques élus n'empêche pas que l'immense majorité, quelle que soit l'époque, reste à sa place, grosso modo.
Le président de la République et d'autres avant lui ont multiplié les réformes concernant l'égalité des chances. Pour l'accès aux grandes écoles, quel est le résultat ?
Les politiques d'égalité des chances dans les grandes écoles, ça date pas d'aujourd'hui. Je rappelle qu'il y a eu, il y a 20 ans, le lancement des conventions ZEP pour l'accès à Sciences Po, qui visait à démocratiser Sciences Po en promouvant une génération de bacheliers venant de zones sensibles. Les résultats sont clairement en décalage par rapport aux annonces, au sens où il y a une évolution très très faible des catégories socio-professionnelles modestes. Alors, pour les taux de boursiers, c'est un peu plus significatif, mais ça reste très lent aussi, très modeste. Et surtout, faut pas oublier, quand on voit des proportions de boursiers qui augmentent, que la population des boursiers elle-même a changé, puisque les politiques des bourses en France sont de plus en plus favorables aux classes moyennes. Et donc, du coup, c'est souvent des boursiers de classe moyenne, ce qui est déjà quelque chose comme évolution, mais c'est pas la même chose que de parler d'une démocratisation au sens rigoureux du terme.
Alors, vous ouvrez le livre avec l'exemple de Vincent. Alors, lui, il est issu d'une famille modeste. Alors, il a toujours étudié en ZEP, zone d'éducation prioritaire. Il est reçu au concours de l'IEP, Institut d'études politiques, mais il est rattrapé, vous expliquez, par un sentiment d'amertume. Ça veut dire que cette idée d'être assigné à résidence, il y aurait quelque chose d'émotionnel ?
En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il suffit pas de franchir les frontières sociales et de réussir des études extrêmement prestigieuses ou sélectives pour se sentir totalement quitte de son passé et changer de peau comme ça du jour au lendemain, ou de se faire accepter par son nouveau groupe, ou de l'accepter lui-même, ce nouveau groupe social. Ce que montre Vincent, quand il parle, il a cette image du boulet, c'est qu'il sent qu'il se traîne encore un boulet malgré le fait qu'il réussisse bien ses études, tout simplement parce que il voit bien que ses manières de sentir, de penser, tout ce qui fait de lui un être en chair et en os, ne colle pas, ne s'ajuste pas en fait à celle des autres camarades, des autres condisciples qu'il fréquente. Ça colle à la peau. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'on reste figé et qu'on ne peut pas changer, mais en tout cas, c'est beaucoup plus lent que ce qu'on croit. Et quelque part, c'est des boursiers comme Vincent ne se sentent pas forcément chez eux quand ils arrivent dans une filière d'élite, dans une grande école, c'est qu'elles ne sont pas pensées ni conçues pour eux. Et donc, il y a peu de raisons qu'ils se sentent comme des poissons dans l'eau, contrairement aux héritiers.
Alors, pour terminer, vous faites on peut pas tout dire, malheureusement, vous faites un constat accablant, ou plutôt l'OCDE. 6 générations, soit plus de 150 ans, seraient nécessaires pour que les enfants de familles modestes atteignent un jour le revenu moyen. La bataille est perdue d'avance ?
Ah non, elle n'est pas perdue d'avance, justement. Si on voit que dans l'histoire, il y a eu des voix discordantes, il y a eu du dissensus malgré le consensus apparent, c'est qu'à chaque époque, il est possible d'envisager une alternative. C'est ce que je dis bien dans mon livre, c'est qu'il y a d'autres modèles qui sont possibles.
Oui, vous faites des propositions.
Tout à fait, oui. Donc, je pense que on peut refaire des universités démocratiques le centre de gravité de l'enseignement supérieur. On peut repenser le financement aussi de l'enseignement supérieur pour mieux redistribuer les fonds publics et les allouer en priorité à ceux qui en ont le plus besoin. Il y a des écarts assez forts entre voilà de dotation budgétaire entre les filières d'élite et les universités. Et puis il y a d'autres mesures qui
peut-être en finir aussi avec le clivage manuel intellectuel technique, études générales.
Tout à fait. Et ce clivage-là, il y a plein de clivages qui tendent à maintenir une ségrégation forte dans la société française, public-privé, manuel, intellectuel, etc. Donc oui, je pense que on peut repenser ça et on peut repenser avant tout, il me semble, la notion de mérite, d'aller au-delà du mérite au sens le plus élitiste du terme. Donc je fais référence dans mon livre à Condorcet, ce grand philosophe révolutionnaire qui disait que le mérite, ça n'est pas seulement toujours vouloir être le premier, que ce n'est pas seulement se disputer des prix, hein, c'est le fait de faire un voyage en commun et ce besoin de mérite de l'estime qui offre la possibilité de ressentir une paix intérieure.
Merci beaucoup Paul Pasquali. Je rappelle que votre livre « Héritocratie, les élites, les grandes écoles et les mésaventures du mérite » 1870-2020, qui est vraiment un livre que je recommande, un livre passionnant. Ce livre est publié aux éditions de La Découverte. Merci beaucoup.
Merci.